J'ai bien mal au cœur en voyant votre manière d'agir. Si je vous jugeais d'après les fruits que vous portez, je supposerais que vous n'étiez pas un arbre dans le jardin du Seigneur, mais un buisson de ronces. J'ai supposé que, quand vous travailliez avec Homer, vous seriez une bénédiction pour lui, en tant que soldat du Christ, en le dirigeant vers Jésus, tandis qu'on entendait la douce invitation de miséricorde. J'ai pensé que vous-même écouteriez sa voix et que vous attireriez Homer aux charmes attrayants de Jésus-Christ. Nous vous voyons œuvrer complètement à l'opposé. Si ça n'avait été à cause de l'influence que vous avez exercée sur lui, je n'ai aucun doute qu'il aurait recherché le Seigneur avec la plus grande ferveur et qu'il se serait repenti de ses péchés. Vous m'avez profondément déçu. Lundi soir, juste avant la fin de l'année, j'ai demandé si Homer assisterait à la réunion pour les jeunes, et la sœur MacDarmon m'a dit qu'elle craignait qu'il ne vienne pas. Puis elle m'a dit que son cœur était très affligé pour Horner. Qu'en votre compagnie, il faisait des choses qu'elle ne lui avait jamais permises de faire, aller à des fêtes le soir et ne revenir à la maison que tard dans la nuit. Elle était très inquiète et angoissée pour lui. Elle avait peur que s'il ne cherchait pas le Seigneur pendant les rencontres spéciales, il continuerait à faire ce qu'il avait toujours fait, négligeant avec insouciance son âme. Je lui ai demandé si elle avait parlé à Homer. Elle m'a dit que oui, mais qu'il devrait écouter et à qui il devrait obéir, a maintenant peu d'influence sur lui, puisque la vôtre est beaucoup plus forte. Je lui ai demandé « Avez-vous parlé avec John ?» Elle m'a dit qu'elle l'a fait, mais que vous vous étiez insurgé avec audace, que vous aviez affirmé qu'il n'y avait rien de mal à fréquenter la bonne société et que les paroles d'avertissement et les supplications n'avaient eu aucun effet. Hier soir, on m'a demandé d'aller à la réunion pour la jeunesse, au tabernacle. Bien que j'avais fait appel au médecin parce que plusieurs d'entre nous étaient malades et que moi-même je l'étais, mon intérêt pour ce jeune était si grand que je m'y suis rendu. Je vous ai cherché, vous et Homer, mais vous n'y étiez pas. La réunion a vraiment été splendide. 50 personnes se sont avancées pour qu'on prie pour elles et beaucoup parmi eux recherchaient le Seigneur pour la première fois. J'ai regretté que vous et Homer ne fussiez pas présents. Cela aurait pu être le moment où le Seigneur aurait touché son cœur et où il aurait pu entendre la voix du Sauveur, l'invitant à ouvrir la porte de son cœur pour y laisser entrer Jésus. J'ai observé chaque personne qui arrivait, mais vous n'étiez pas parmi eux. Alors que je me réjouis de voir autant de jeunes gens et de jeunes filles, joyeux et heureux, j'ai beaucoup de peine en les voyant emprunter le même sentier que celui que vous parcourez, parce que votre influence et votre exemple conduisent d'autres loin de Jésus. Vous cultivez chez vous et chez les autres des goûts et des appétits pour des choses qui ne donnent pas de solidité à votre caractère et qui ne représentent pas la vie chrétienne. Homer a dit à sa grand-mère, « John est un chrétien, il appartient à l'Église, il ne fera rien de mal. » Mais sa grand-mère, qui prend soin de lui depuis son enfance, est très angoissée par la tournure des choses. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir de la parole de Dieu et que vous voyiez par vous-même si vous avez influencé Homer de façon à ce qu'il mette la parole en pratique. Lui avez-vous appris à obéir à tous les commandements de Dieu, surtout au cinquième, qui est le premier qui contienne une promesse? J'ai été très surprise de constater la qualité de votre expérience dans les choses religieuses, car elle est certainement dépourvue des éléments essentiels pour passer l'examen de la preuve de Dieu. Tout ce qui peut être secoué le sera, et ce qui ne peut être ébranlé subsistera. Où serez-vous au moment de l'épreuve? Mon frère, grandissez-vous vers le ciel? Êtes-vous en train de croître jusqu'à la pleine stature d'un homme en Jésus-Christ, votre chef vivant? Vous fixez-vous, vous enracinez-vous et vous fondez-vous dans la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus, qui est la source de votre joie, de votre paix et de votre bonheur? Est-il le couronnement de votre réjouissance? Si c'est le cas, c'est ce que vous révélerez.
Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments.
Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Jean 15, versets 1 à 8. Pouvez-vous, mon frère, revendiquer le droit d'être un disciple ? Vos fruits sont-ils produits dans la sainteté ? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, versets 10 à 14. Allez-vous, non pas simplement lire, mais étudier ces paroles, dans la réflexion et la prière. Elles signifient beaucoup, oui, tout pour vous, pour moi et pour Homère. Chaque parole prononcée par le Christ devrait être gravée sur les tablettes de l'âme. Ces paroles viennent des lèvres de Jésus. « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Jean 15, verset 8. Voici la preuve de votre condition de disciple. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. Considérerez-vous la qualité des fruits que vous produisez ? Êtes-vous une branche féconde du tronc principal de la vigne ou produisez-vous des fruits qui n'ont aucune ressemblance à la vigne principale ? Je vous le demande sérieusement et solennellement. Quel est le caractère du fruit que vous produisez ? Est-il bon pour les âmes ? Est-ce le fruit de l'abnégation, du sacrifice, le fruit de la douceur, de la patience, de la tolérance, de l'amour, de la joie, de la paix, de l'endurance, de la gentillesse, de la bonté et de l'amour ? Ce fruit donne-t-il des bourgeons et fleurit-il pour Dieu et sa gloire en agissant comme le Christ agissait pour sauver les âmes en danger ? Souvenez-vous que, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Sans cette preuve, vous n'appartenez pas au Christ, et Jésus n'est pas non plus en vous. Vous n'avez pas le droit de vous appeler chrétien. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Quelle est la qualité de cet amour ? Un amour semblable à celui que Jésus a révélé dans sa vie ? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Un amour pour l'âme qui renoncerait aux satisfactions égoïstes et qui pratiquerait une abnégation stricte afin d'élever, d'anoblir et de sanctifier ceux que nous fréquentons. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » Jean 17, verset 19. Aimez-vous suffisamment ceux que vous fréquentez pour renoncer à votre désir de vous divertir et de satisfaire vos envies afin de ne pas conduire ces âmes sur le sentier de la tentation, de ne pas les inviter à la poursuite d'amusements et de batifolage qui conduit à l'extinction de toute pensée sérieuse concernant le salut de leur âme. Cultivez-vous la piété personnelle et les principes vivants, clairement enseignés par le Christ, afin que vos jeunes amis puissent vous suivre là où vous les guidez, toujours plus haut et toujours plus en avant, vers l'obéissance à Dieu. Il ne fait aucun doute que vous faites plaisir à ceux qui ne sont pas consacrés, ni convertis. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils apprécient votre compagnie, puisque votre manière d'agir n'affecte pas leur conscience, là où l'amour, la louange et l'honneur envers Jésus ne sont exprimés ni en paroles, ni en actions. Mais quelle est la qualité de votre amour ? Est-il à caractère à encourager ceux que vous fréquentez à ressembler davantage au Christ ? Aura-t-il tendance à poser de solides charpentes dans l'édification de leur caractère ? Quel genre de caractère aimeriez-vous montrer au monde entier ? Aimeriez-vous avoir le respect et l'estime de ceux qui sont bons et qui craignent Dieu ? Alors, agissez de manière à gagner leur respect. Vous avez sûrement des comptes à rendre à Dieu pour les fruits visibles dans vos fréquentations avec Homère et les jeunes en général. Vous êtes un mauvais panneau de signalisation, indiquant le mauvais chemin, induisant en erreur les âmes qui sont plus aveugles que vous et qui n'ont jamais su ce qu'être sous le contrôle de l'Esprit de Jésus-Christ veut dire. 11. Se peut que ceux que vous pensez être vos amis apprécient beaucoup le manque d'enthousiasme, de consécration et de christianisme dont vous faites preuve. Il se peut que leur amitié vous encourage à penser qu'afin d'être heureux, vous deviez participer à des plaisirs soi-disant innocents, mais masqués par Satan pour détruire votre spiritualité et la leur. Ils ne peuvent payer la rançon pour votre âme, et vous ne pouvez non plus payer la leur. Toute personne sauvée doit être sauvée par sa foi en Jésus-Christ. Est-il possible que vous ayez déjà goûté aux bénédictions qui découlent du véritable service à Jésus-Christ ? Est-il vrai que vous êtes enrôlé sous la bannière de Jésus-Christ ? Serons-nous amenés à vous considérer comme un déserteur passé au rang de l'ennemi ? C'est comme ça que je le vois. Vous n'êtes aujourd'hui certainement pas sous la bannière de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a-t-il pas honte du soldat que vous avez été pendant au moins la plus grande partie de l'année qui s'est déroulée vers l'éternité avec ses actes enregistrés ? Comment votre complaisance sera-t-elle présentée à la vue de Dieu et des saints anges ? Qu'avez-vous fait pour Jésus ? Quel est l'état de votre registre dans le livre des comptes du ciel ? Parlons de ce jeune homme, Homer. Ses grands-parents l'aiment, ont travaillé pour lui et prié pour son salut afin qu'il retrouve sa mère dans le royaume de Dieu et qu'il puisse dire « Voici ton garçon que nous avons élevé, éduqué et pour qui nous avons prié et travaillé. Il est blanchi dans le sang de l'agneau. » Mais voici ce jeune homme que vous fréquentez, et le cœur de ceux qui l'aiment et qui veulent qu'il soit sauvé voit que vous qui devriez collaborer avec Dieu pour le rapprocher et l'attirer à lui, l'éloignez de Dieu. Comment est-ce que le ciel vous considère ? Au moment même où chaque brin de votre influence concernant cette situation devrait être du côté du Christ, votre nom est enregistré comme appartenant à quelqu'un de frivole, de vénal, de suffisant, de sûr de lui et qui laisse au hasard la formation de son caractère. Comment savez-vous qu'une autre occasion aussi favorable pour que Homer et vos autres compagnons répondent aux invitations de la miséricorde se présentera ? Pourquoi ne réfléchissez-vous pas au genre de semences que vous semez alors que vous vous livrez, en un moment aussi critique que celui-ci, à l'indifférence, à la paresse spirituelle et à l'amour des plaisirs? Qui servez-vous, Dieu ou le diable? Si vous refusez d'écouter les paroles de conseil, suivez vos propres humeurs et penchants et profitez des amusements. Si vous vous laissez négligemment flotter vers le bas, au gré du courant de la marée de la vie, prêt à recevoir n'importe quelle impression ou à aller là où le courant des plaisirs vous mène, quelle sorte de récolte vous attendez-vous à amasser ? Vous devez rechercher Dieu maintenant, tant qu'on peut le trouver, car je sais qu'il n'est pas content de vous. Vous préparez Homer à recevoir des idées qui le conduiront à des perceptions superficielles de ce qui constitue le caractère chrétien. Vous ne vous rapprochez pas de la moindre mesure des standards bibliques, et votre influence conduit les autres à se satisfaire de pauvres accomplissements. Alors que nous avons sérieusement travaillé à la conversion des jeunes, vous et d'autres jeunes, vous les avez poussés à se satisfaire d'espoirs et d'objectifs qui les rendront inaptes à se tenir debout au milieu des dangers des derniers jours. Vous avez reçu beaucoup de lumière. Vous avez été placés là où vous avez eu des occasions et des privilèges de connaître les impératifs de Dieu et vous êtes vifs pour discerner les évidences présentées de ce qu'est la vérité. Vous serez sans excuse au grand jour, quand chaque âme sera jugée. Non pas selon ses propres idées de la norme de justice, mais selon la norme morale de sainteté de Dieu lui-même. En fonction d'elle, vous vous tiendrez debout ou vous tomberez. J'aime votre âme, et vous suscitez chez moi un profond intérêt. Je veux que vous soyez en règle avec Dieu. Je souhaite vraiment que vous soyez véritablement et sans équivoque convertis à lui et que vous soyez sanctifiés par la vérité. La vie est Émilel et tout ou rien pour nous. La vérité produit de la beauté dans l'âme. Une simple profession de foi ne vous sauvera jamais, car c'est un métal qui résonne ou une cymbale qui retentit. N'en plaise à Dieu que vous continuiez plus longtemps dans l'erreur, que la source d'où l'eau douce jaillit ne s'empoisonne et que la vigne qui devrait produire des grappes sucrées ne produise que des baies sauvages. Que le Seigneur vous aide à voir la valeur de l'âme pour laquelle le Christ a payé le prix du rachat de son sang précieux. Accrochez-vous de manière juste afin de travailler au salut des âmes. C'est ce que Dieu vous demande. Je laisse ces lignes à votre considération. Je déplore profondément que la crainte et l'amour de Dieu ne se manifestent pas davantage dans la famille parmi laquelle vous vivez. Nous nous trouvons au milieu des dangers des derniers jours, et maintenant, si un homme doit être uni au Seigneur, il doit se cramponner fort à la seule puissance qui puisse lui accorder la victoire. Et cette puissance est Jésus-Christ.
John, j'espérais que vous feriez honneur à votre Rédempteur. Vous avez grand besoin d'un examen profond de votre pensée et d'effectuer un grand travail dans votre cœur. » En général, quand on fait un appel aux jeunes, ils ont tendance à dire « Je suis aussi bon que ce jeune-là. Il aime les plaisirs et le sport, et il ne pratique pas plus l'abnégation et le sacrifice de soi que moi. Il appartient à l'Église, il est chrétien. Je ne suis pas chrétien, et je crains ne pas faire mieux que ce jeune homme. » À cause de tant de chrétiens déclarés qui manquent d'enthousiasme, beaucoup de jeunes tendent à penser qu'une religion qui a besoin d'amusement et de batifolage, de raillerie et de plaisanterie, ne leur serait d'aucune utilité, et la question de la religion est présentée sous un jour défavorable. Il ne faudrait pas que la religion paraisse sombre et peu attrayante, comme quelque chose destiné à nuire à leur bonheur, rendant la vie fade et désagréable. Ceux qui bénéficient vraiment de l'amour de Dieu ont la joie et la paix. La religion n'a jamais été conçue pour enlever la joie à quelqu'un. Qu'est-ce qui pourrait produire plus de bonheur que d'apprécier la paix du Christ, le soleil brillant de sa présence? Les ténèbres et le mécontentement peuvent-ils entourer votre âme? Le sombre désespoir planera-t-il sur vous? Jamais, tant que votre foi est en Jésus-Christ. John, vous avez cultivé vos penchants pour l'amour des amusements et des frivolités. Avez-vous grandi en grâce? Avez-vous ressenti la grande importance d'une instruction quotidienne de votre cœur et de votre esprit afin de cultiver vos facultés les plus nobles et les plus élevées? Vous devez avoir une meilleure perception de la religion. Vous êtes impulsif, émotif, saccadé dans votre service religieux. Faites très attention, autrement vous commettrez de grandes erreurs. Vous n'allez pas jusqu'au fond des choses. Ne suivez pas les penchants de votre propre esprit. Vous avez des tendances héréditaires qui ne sont pas les plus favorables pour la perfection du caractère chrétien, et vous pourriez perdre votre âme, à moins de considérer la grande question des intérêts éthémels sous un jour différent. J'espère que vous ferez cas de ce que je vous ai écrit et que vous permettrez à ceci de se graver dans votre cœur. Vous ne pouvez être protégé que par la puissance de Dieu uniquement alors. Chargez-vous du joug avec le Christ. Visez haut et creusez plus profondément que ce que vous ne faites maintenant. Posez vos fondements sur le roc. Suivrez-vous Dieu ou Baal? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, verset 15. Je sais que vous ne servez pas Dieu avec toute votre affection. Ne restez pas sur le chemin des pécheurs, ce que vous faites assurément maintenant. Choisissez des sentiers droits pour vos pieds, et que le boiteux ne sorte pas de la voie. J'espère que vous abandonnerez vos trivialités et que vous veillerez dans la prière. Soyez sobre, soyez sérieux, et cependant, soyez un chrétien joyeux et ensoleillé. Que le Seigneur vous aide à être un chrétien accompli, entier, sans carence.